Voilà, je suis avec Bernard Ourganglian de Microsoft. Bonjour Bernard. Vous êtes un expert de beaucoup de choses, mais aussi de l'informatique quantique que vous aviez présenté à Microsoft Experience il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce que c'est l'informatique quantique en quelques mots?
L'informatique quantique, c'est cette idée qui peut paraître un peu surprenante, hein, qui est finalement d'avoir une approche où on essaye au sein d'un ordinateur, qui est un ordinateur qui a des propriétés très particulières, de fonctionner comme fonctionne la nature en quelque sorte. Donc les phénomènes quantiques sont des phénomènes qui sont un peu des défis au sens commun, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qu'on observe, dont on sait qu'ils fonctionnent, qu'ils sont là, qui permettent à un GPS de fonctionner ou à un laser de fonctionner, mais qui sont extrêmement incompréhensibles pour nous les humains, parce qu'en fait, on est à une échelle où finalement, aussi bien l'infiniment grand que l'infiniment petit ne nous sont pas perceptibles. Et donc, par exemple, un ordinateur quantique va reposer sur un phénomène très étrange, qu'on appelle la superposition, où en quelque sorte, même si c'est une analogie, on peut imaginer que on puisse avoir des particules, puisqu'on est vraiment à l'échelle atomique, qui sont dans une infinité d'états en même temps. C'est-à-dire que quand on compare avec un ordinateur classique, on parle en général de bits sur un ordinateur classique qui peuvent être à la soit 0, soit 1. Sur un ordinateur quantique, on peut être en quelque sorte, dans des états qui sont à la fois 0 et 1. Et donc, c'est ce phénomène de parallélisme intrinsèque d'un ordinateur quantique que l'on utilise pour permettre de paralléliser à très très grande échelle les calculs et donc d'obtenir sur certains types d'algorithmes une accélération exponentielle. Ce qui a permis finalement de populariser l'informatique quantique, c'est le développement par un informaticien qui s'appelle Peter Shor d'un algorithme quantique permettant de casser des clés de chiffrement. Donc, en l'occurrence, l'algorithme qu'il a permis de développer permet de casser des clés de chiffrement qui sont utilisées aujourd'hui de manière très courante, par exemple, pour permettre de protéger nos conversations sur Internet, l'utilisation du protocole HTTPS, qui utilisent effectivement des algorithmes de chiffrement. Et ces algorithmes de chiffrement, ils sont intraçables par un ordinateur classique. Il faudrait probablement 1 milliard d'années pour être capable de les craquer, alors que pour faire la même chose sur un ordinateur quantique, il faudrait 1 centaine de secondes. Donc en fait, on voit que, au moins intuitivement, l'algorithme peut permettre de faire des choses qui sont totalement inimaginables sur un ordinateur classique, même si on se projette dans 100 ans et que la loi de Moore, c'est-à-dire cette capacité à doubler la performance des ordinateurs tous les 18 mois à peu près, même si on peut toujours débattre sur le fait que cette loi existe encore, on se rend bien compte que même en doublant les performances encore pendant 100 ans, on n'arrivera pas encore à être capable de faire ce qu'un ordinateur quantique serait capable de faire.
Alors, quelles innovations avons-nous observées sur le domaine de l'informatique quantique depuis votre présentation de 2017?
Alors, paradoxalement, pas grand-chose de visible, au sens où on travaille toujours d'arrache-pied à la fabrication d'un ordinateur quantique capable de passer à l'échelle, puisque tel est notre objectif. Mais c'est un objectif qui est difficile à atteindre parce que on a besoin à la fois de lutter contre les qubits qui peuvent interagir les uns avec les autres et aussi avec l'interaction de l'ordinateur quantique avec le monde qui est autour. Donc un ordinateur quantique, ça fonctionne à très 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 basse température. On est aux alentours de 15 millikelvin, donc des températures qui sont très 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 proches du zéro absolu. Pour autant, il y a des phénomènes d'interaction avec le monde extérieur qui produit malheureusement un phénomène qu'on appelle un phénomène de décohérence, qui fait que l'état quantique qui existe à un instant donné disparaît dès que cette interaction a lieu. Donc, De notre côté, on fabrique des qubits qui sont des qubits qui sont capables de résister à ces problèmes, mais ces qubits sont très très difficiles à fabriquer puisqu'ils reposent sur la mise en œuvre de nanotechnologies. Et donc aujourd'hui, on est en plein dans l'ingénierie, on va dire. C'est-à-dire qu'on a résolu les problèmes théorique. Mmh. Maintenant, il faut construire l'ordinateur quantique, être capable de fabriquer suffisamment de qubits de suffisamment bonne qualité pour être capable de les mettre ensemble. Donc, c'est le sujet sur lequel on travaille actuellement.
Alors, si on fait un peu de technologie fiction, est-ce qu'on peut imaginer un jour que cette informatique quantique puisse aider le marketing? Alors, peut-être pas aujourd'hui, puisqu'on est encore dans l'ingénierie, mais peut-être demain et à quelle échéance?
Alors, ensuite, il faut voir quel genre de scénario on peut imaginer d'utiliser ou de mettre en œuvre pour aider le marketing. En première analyse, même si je ne suis pas un expert du marketing, je me dis que la capacité, par exemple, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour, par exemple, faciliter la prise de décision, être capable d'assembler des foules de données, d'être capable de leur donner du sens en quasi temps réel, ça fait partie des choses qui, a priori, devraient intéresser le marketing. Alors, ce qui est compliqué en termes de perspective, c'est que l'analyse d'une très, très grande quantité de données nécessite d'alimenter l'ordinateur quantique d'une très, très grande quantité de données. Donc, aujourd'hui, imaginez qu'un ordinateur quantique puisse travailler sur des algorithmes d'intelligence artificielle reposant sur des très, très grandes quantités de données. Je pense que c'est une perspective qui est encore relativement lointaine, probablement une décennie au moins. Donc, je n'imagine pas que le marketing puisse être augmenté par l'ordinateur quantique demain matin. Pour autant, ça me paraît une perspective tout à fait imaginable. Et c'est clair que parmi les applications sur lesquelles on travaille d'un ordinateur quantique, il y a évidemment l'intelligence artificielle et de manière plus précise, ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning, donc cette capacité que les ordinateurs puissent apprendre à partir des données.
Finalement, 10 ans, c'est un temps relativement court en technologie sur des innovations aussi fondamentales. On pourrait finalement peut-être s'aventurer à dire que le futur des big data, dans le domaine du data marketing, passera en tout cas un jour par ces supercalculateurs quantiques.
Alors, ça me paraît être une hypothèse tout à fait raisonnable. Effectivement, si on arrive à résoudre tous les problèmes qui sont aujourd'hui les nôtres, on peut parfaitement imaginer qu'on sera capable, dans des délais relativement significatifs encore, de fabriquer un ordinateur quantique suffisamment puissant pour être capable, effectivement, de traiter des données en très, très grande quantité. Mais ça reste encore une fois quelque chose qui n'est pas pour demain matin. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude quand on parle d'innovations qui vont arriver la semaine prochaine. Là, on ne parle pas d'innovations qui vont arriver la semaine prochaine.
Bien sûr. Ce sont souvent celles d'ailleurs qui sont les plus fondamentales et les plus intéressantes. Alors, pour paraphraser Stéphane Amarcy qui a écrit mon directeur marketing sera un algorithme, est-ce qu'on peut envisager peut-être dans 15, 20 ans, 30 ans que mon directeur marketing de demain soit un ordinateur quantique?
Alors, là, ça serait imaginer qu'on puisse avoir un fonctionnement de l'intelligence artificielle dans lequel on aurait totalement éliminé l'humain de la boucle. Pour être très honnête, je ne pense pas ni que ce soit un avenir très réaliste, ni même très souhaitable. Je pense qu'à un moment donné, s'il s'agit de prendre une décision, le fait d'avoir toujours un humain dans la boucle reste toujours quelque chose d'important, que ce soit en utilisant un ordinateur quantique, un supercalculateur ou une simple tablette ou une PC de bureau. Le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle ne veut pas pour autant dire que l'humain est complètement éliminé de l'interaction. Pour le dire autrement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est extrêmement, extrêmement efficace pour être capable de détecter dans des ensembles de données extrêmement, extrêmement vastes des sortes de corrélations, des données qui vont bien ensemble ou qui, a priori, évoluent de la même façon, ce que, en général, l'humain a des difficultés à faire. Pour autant, le fait d'avoir des corrélations entre des données ne permet pas de pouvoir relier cette corrélation à une causalité, c'est-à-dire être capable, par exemple, d'expliquer que un consommateur, je prends le cas du marketing grand public, hein, qui s'adresse à la compréhension des intentions d'achat des consommateurs, le fait qu'il y ait, je ne sais pas, une corrélation entre des facteurs et les intentions d'achat, ça n'est pas pour autant qu'on comprend réellement la cause. Et donc, typiquement, le fait qu'éventuellement un directeur marketing puisse se faire aider, pourquoi pas, par un sociologue pour l'aider à comprendre de manière un peu plus fine les grandes tendances de la société, je pense que cette aide, elle existera toujours, même si demain, on est capable de traiter des algorithmes à très, très grande vitesse par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mmh.
Parfait, ben merci Bernard, et rendez-vous donc les 11 et 12 mars 2019 à Big Data Paris.
À bientôt donc.